Et c'est la revue de presse de Nasser Madji. Bonjour Nasser.
Bonjour.
Un titre fait majoritairement la une de vos journaux, c'est la mort d'Aretha Franklin.
Hommage unanime pour la Lady Soul, chanteuse exceptionnelle mais aussi féministe et défenseur des droits civiques. Elle est morte hier à 76 ans dans sa ville de Détroit. Aretha Franklin, Soul en son royaume, titre Libération en page intérieure et en une photo noir et blanc de l'artiste qui date de ses débuts. On voit la chanteuse au micro, demi-sourire et ce regard un peu pensif, si émouvant. Respect, c'est la chanson qui la fera connaître du grand public en 1967, un tube écrit par Otis Redding. Un titre énergique, mais quand le grand Otis se limite à évoquer une banale querelle de ménage, Aretha Franklin, elle, le revisite et en fait un hymne universel pour l'égalité, nous précise lemonde.fr. La chanson Respect, c'est 2 minutes 28 d'une puissance incroyable, à peine le temps d'un round de boxe, nous dit Wesley Morris dans le New York Times. Mais elle arrive dans une période où la guerre du Vietnam, les assassinats politiques et les émeutes raciales accablent l'Amérique. Cette façon de chanter et de jouer avec sa voix, les arrangements choisis, ça n'existait pas à l'époque. Grâce à cette interprétation intense, Aretha Franklin en fait aussi une chanson politique, malgré des références sexuelles évidentes, les fameux « Suck it to me » qu'on pourrait traduire par « Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire ». Une femme forte donc, et un talent unique, nous raconte La Croix. Dès l'âge de 5 ans, Aretha s'essaie au gospel dans les églises et enregistre 2 disques à seulement 9 ans. Aretha Franklin, qui aura son premier enfant dès l'âge de 14 ans, a tout de suite, une oreille absolue, une technique saisissante, une voix de 4 octaves qu'elle sait manier à merveille, notamment par des ruptures et des crescendo qui prennent aux tripes. Plusieurs générations de mélomanes la considèrent comme la plus grande interprète de tous les temps. C'est un modèle indépassable pour le Figaro. C'est le directeur de Columbia, John Hammond, qui lui fait peu à peu abandonner le répertoire religieux pour enregistrer des standards blues, jazz ou rhythm and blues. Nous sommes en 56 et Hammond, qui a déjà découvert Billie Holiday ou Bob Dylan, est certain qu'elle est un diamant brut. Aretha Franklin quittera finalement la maison de disques quelques années plus tard, persuadée qu'elle n'est pas assez soutenue parce qu'elle est noire. C'est avec Atlantic Records qu'elle s'épanouira dès 66. Suivront Respect donc, mais aussi Think I Say a Little Prayer ou Chain of Fools.
Un talent qu'elle tenait de ses parents, Nasser, qui lui ont transmis aussi des idéaux de justice.
Ouais, dans la famille Franklin, tout le monde chante, mais la politique avec un grand P n'est jamais très loin. Son père, pasteur baptiste et autorité religieuse très respectée, dénonce inlassablement la ségrégation et fréquente toutes les figures clés des droits civiques et particulièrement Martin Luther King. C'est à cette époque, nous rappelle l'Humanité, qu'Aretha Franklin découvre le racisme à l'état brut, ses fast-foods réservés aux Blancs et ses stations essence qui refusent de servir les Afro-Américains. Adolescente, la chanteuse accompagne le Dr King dans sa tournée du pays. Elle chantera même à ses funérailles en 1968. Ce sera le début d'un engagement sans faille pour la liberté et la défense de l'identité noire. Un combat résumé par les mots de Daphne Brooks, professeure d'études afro-américaines à Yale, c'est dans Libération. Très tôt dans sa carrière, elle s'est donné le droit d'évoquer les tourments émotionnels des Afro-Américains. Aretha Franklin a chanté la bande-son complexe de la femme noire qui se réinventait. L'un des derniers grands moments de la chanteuse restera sûrement ce concert au piano en décembre 2015. Manteau de fourrure sur les épaules, visage amaigri, mais doigté impeccable et voix maîtrisée. Ce soir-là, Barack Obama ne peut contenir son émotion. Hier, l'ancien président américain a écrit ces mots. Dans sa voix, on pouvait sentir toute notre histoire dans chaque nuance, notre respect si durement gagné. Elle nous a aidés à nous sentir plus liés les uns aux autres et parfois, elle nous a aidés à tout oublier et à juste danser. Voilà, c'était la toute première apparition à la télévision française de la chanteuse américaine en novembre 77, mais il n'y en aura pas beaucoup d'autres puisqu'Aretha Franklin avait une phobie de l'avion dans les années qui ont suivi. Elle n'a donné des concerts qu'aux États-Unis.
Et vous nous parlez maintenant, Nasser, d'un autre artiste noir américain, lui aussi très engagé.
C'est le retour d'un combattant pour le magazine du Monde qui a choisi de mettre en une le réalisateur Spike Lee, l'auteur de l'incroyable biopic sur Malcolm X et du jubilatoire Do the Right Thing, revient au cinéma après 12 ans d'absence. l'occasion, 50 ans après le début des combats pour les droits civiques aux États-Unis dont on vient de parler, d'interroger l'Amérique d'aujourd'hui, celle de Donald Trump. Spike Lee, infatigable militant de la cause noire, sort un film coup de poing, grand prix du jury au Festival de Cannes qui s'appelle Black Klansman, l'histoire d'un policier afro-américain qui décide d'infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. Le film est sorti aux États-Unis 2 jours avant la date anniversaire des affrontements de Charlottesville qui a vu un suprémaciste blanc tuer une jeune femme qui manifestait contre l'extrême droite et c'est tout sauf un hasard. Les images de cet assassinat forment l'épilogue de son long métrage.
Et puis M, le magazine a rencontré Spike Lee chez lui à New York.
Ouais, le metteur en scène à l'inamovible casquette reste convaincu, même s'il a reculé à Hollywood, que le racisme est bien une institution américaine. Quand j'étais à l'école primaire, dit-il, on m'a emmené voir Autant on emporte le vent. J'ai détesté ce film. Hattie McDaniel, la comédienne qui incarne Mamie, l'esclave nourricière, a reçu l'Oscar du second rôle, mais à la cérémonie, elle n'a même pas été autorisée à s'asseoir à la table des acteurs. Dans son film, qui sort en France mercredi, Spike Lee, 61 ans, évoque les lynchages des Noirs qui ont jalonné l'histoire de son pays, ces assassinats qui ont fait 5000 morts de 1882 à 1968 n'ont pas pris fin, dit-il. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ont remplacé les foules. Quand on était un esclave en fuite, on vous tirait dans le dos. Comment ne pas faire le lien avec les meurtres de Noirs innocents? L'engagement de Spike Lee lui a valu quelques difficultés dans sa carrière. Quand j'ai parlé de faire Malcolm X, raconte le réalisateur, la Warner entendait confier le film à un metteur en scène blanc. J'ai dû faire pression pour qu'il me revienne, mais ils m'ont vite coupé les vivres. Alors j'ai pensé à Malcolm et je me suis dit, quand il parlait de l'autodétermination des Noirs. Alors j'ai remis $1 million de ma poche et j'ai appelé Bill Cosby, j'ai appelé Oprah Winfrey, Janet Jackson, Michael Jordan et j'ai terminé le film. Spike Lee, dont le père était un brillant musicien de jazz, a pour l'habitude de ne jamais citer le nom de l'actuel président américain Donald Trump, qu'il déteste. Il le surnomme l'agent orange, comme cette arme chimique utilisée pendant la guerre du Vietnam. C'était le temps où, déjà, Aretha Franklin dénonçait la répression des Afro-Américains et demandait du respect.
Merci Nasser Madji, c'était la revue de presse.